d'histoires et contes.
Rêve. Un jeune garçon feuilletait un album. On y voyait des reproductions de Drakkar. Les Vikings étaient représentés comme des forces de la nature, cheveux au vent et épaules de bûcherons. Le garçon lisait à haute voix. On dit que les Vikings pouvaient sauter aussi haut que leur taille. Puis, le héros de l'histoire commençait à s'entraîner. Il bondissait au-dessus des chaises, de son lit, de la table de la cuisine. On le retrouvait ensuite vers 18 ans. Il était grand, la chevelure épaisse et bouclée. Il volait par-dessus la barrière du jardin et courait vers un stade. La caméra zoomait sur la toise qui affichait 1,90 m. Mesurant d'abord ses pas depuis le fil, l'athlète se lançait ensuite dans une courte danse et franchissait l'obstacle avec aisance. « Tu peux encore progresser », lui affirmait son entraîneur. Quelques années plus tard, l'enfant qui rêvait d'imiter les Vikings représentait son pays sur un stade international. Il l'emportait à la hauteur invraisemblable de 2,50 m. Le public se tenait debout sur les gradins et l'acclamait dans une hystérie collective. Les applaudissements n'en finissaient pas. Il se transformait en un rythme insistant, comme dans les concerts où on demande un bis à l'artiste. Alors, le dieu du stade reprenait sa position, avalait la brève distance qui le séparait de la mince cordelette et s'élançait à un ressort. Dans un silence total, le champion passait à plus d'une main au-dessus de la hauteur nécessaire et le public laissait échapper un immense soupir d'étonnement et d'admiration. Car l'homme, qui venait de battre le record du monde pour plusieurs décennies sans doute, continuait à s'élever dans les airs. Il écartait les bras comme un cygne géant et, se cambrant doucement en direction du ciel, poursuivait son ascension sous le regard incrédule de la foule qui s'était levée pour mieux le suivre. Les gens le pointaient du doigt. Il ne fut bientôt plus qu'une alouette dans l'azur. Laurent Amati se pinça le bras. On lui avait demandé de participer au jury de ce festival de courts-métrages. Mais il était surpris, car cette idée de sauter plus haut que sa taille, il l'avait eue en feuilletant une encyclopédie qu'on lui avait offerte pour sa première communion. La coïncidence paraissait forte. Mais, se dit-il, il était loin d'avoir été champion du monde. Il avait essayé, un peu, avait péniblement réussi à atteindre 1,60 m durant son adolescence, et c'était tout. Il regarda sur sa droite pour voir comment réagissait son voisin le plus proche. La tête inclinée sur l'épaule, il dormait comme un nouveau-né. Le deuxième court-métrage mettait en scène deux enfants, un garçon et une fille, qui batifolaient dans un champ d'amandiers en fleurs. Le paysage était splendide et les couleurs magnifiquement rendues. C'était plus beau qu'en réalité. Les enfants s'amusaient à se poursuivre, se cachant à tour de rôle derrière les troncs marbrés. Le lendemain, ils partaient à l'école. Assis derrière leur table, on devinait leur nostalgie du lieu magique de la veille face au discours triste des professeurs. À peine rentré chez lui, le garçon passait voir la fille pour l'inviter à retourner dans le champ d'amandier. Il s'y rendait en courant, puis s'arrêtait net. Le champ avait été rasé. Seules subsistaient quelques souches. Même l'herbe qui poussait entre les fruitiers avait été saccagée, remplacée par les ornières des engins. Le garçon pleurait, puis la fille aussi. Doucement, leurs mains se joignaient. Ils se regardaient, défigurés par les larmes. Alors, la fille embrassait le garçon, très fort, sur la joue. Laurent Amati sursauta. Il avait vécu quelque chose de semblable dans un champ de cerisiers. Encore au lycée, ce printemps-là, il avait fréquenté une fille de sa classe avec laquelle il aimait se promener après les cours dans un jardin en fleurs. Le champ appartenait à un de ses oncles qui l'avait vendu par nécessité. Du jour au lendemain, les arbres avaient été sacrifiés. Ce soir-là, son ami l'avait embrassé. Il en avait le cœur tout retourné. Ce festival de courts-métrages ressemblait à un guet-apens. Le menu du déjeuner défila dans son esprit. Le repas comportait tellement de plats, d'amuse-gueules de toutes sortes, de desserts et accompagnements divers qu'il se demandait comment ils avaient pu avaler tout ça. Il est vrai qu'ils étaient restés à table jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Ils dormaient, c'était certain. Tout cela ne pouvait être qu'un rêve. Qui aurait pu connaître cette histoire ? À sa droite, son collègue ronflait toujours. Devant lui, un écrivain local, également membre du jury, avait maintenant disparu. Laurent Amati se leva doucement. L'écrivain, affalé sur 2 fauteuils, avait sombré dans un sommeil de plomb. Si eux dormaient, pouvaient-ils dormir aussi ? À moins que... Une idée lui traversa la tête. Mais les premières images du court-métrage suivant apparaissaient. Des automobilistes, coincés dans un immense embouteillage, étaient prisonniers d'un tunnel de plusieurs kilomètres de long. Un homme, un mouchoir sur le nez, se rendait de voiture en voiture pour conseiller de couper leur moteur à ceux qui ne l'avaient pas fait et leur enjoindre de quitter leur véhicule. Ils allaient tous mourir asphyxiés. Lui-même marquait des signes d'essoufflement. Il marchait ainsi jusqu'à un accident qui barrait le tunnel. Les gens étaient affolés, criaient, pleuraient. Certains étaient blessés, plus ou moins secourus par d'autres. Quelques-uns, prostrés, résignés, demeuraient assis, adossés à la paroi du tunnel. Les mères essayaient de garder leurs enfants le plus possible contre elles. Le spectacle était désolant. Péniblement, il faisait demi-tour, repassait devant sa propre voiture et tentait sa chance vers l'entrée opposée. Là aussi, les véhicules s'étaient accumulés dans un immense carambolage, barrant inexorablement l'autre sortie. Sans relâche, il demandait aux gens de ne pas s'agiter, d'attendre les secours qui ne manqueraient pas d'arriver, et surtout de rester maître d'eux-mêmes. Mais la panique gagnait progressivement, car le bruit que le tunnel était bouché des deux côtés se propageait à toute vitesse. Les gens se ruaient vers ce qu'ils croyaient être une issue dans un comportement de plus en plus sauvage. Le protagoniste de l'histoire apercevait une crevasse dans la paroi. À contre-courant, il parvenait jusqu'à son véhicule, ouvrait le coffre, en tirait des chaussures de montagne et une lampe torche, mettait une bouteille d'eau dans un petit sac dont il s'équipait et, évitant la foule incohérente, se réfugiait dans la crevasse. Il s'agissait d'un boyau d'une ancienne rivière souterraine de la taille d'un homme. Il s'y faufilait, transpirant, glissant, s'écorchant bras et jambes, et parvenait ainsi jusqu'à une grotte souterraine dans laquelle existait encore un petit lac. Il s'y rafraîchissait, puis, profitant d'une galerie naturelle, continuait son ascension jusqu'à la surface, au sommet d'une falaise en bordure d'une grande prairie. Au loin, on distinguait une des entrées du tunnel routier et des camions de pompiers bloqués par un serpent ininterrompu de voitures jusqu'à l'horizon. Il poussait alors un cri issu de l'âge de pierre, long, terrible, jusqu'à épuisement. Cette fois, c'en était trop. Il devinait qui avait pu manigancer cette farce, car c'en était une. Les organisateurs du festival avaient délibérément choisi de mettre en scène des événements de sa vie. Il se souvenait encore de cet accident dans un tunnel après Montgenèvre. Un enfer, une panique comme il n'en avait jamais connu. Et s'il n'avait pas repéré une bouche d'aération, il y serait peut-être encore. Persuadé maintenant qu'il s'agissait d'un canular orchestré par le directeur de la salle, il se creusait la tête pour savoir à qui il avait pu raconter toutes ces scènes majeures de son existence. Se prêtant au jeu, il attendit avec une certaine impatience le prochain film. Il se retourna subrepticement pour voir où étaient les 4 autres membres du jury. Dispersés sur quelques rangs derrière lui, ils étaient tous plus ou moins assoupis. L'un d'eux avait sorti un carnet, sans doute pour évaluer les courts-métrages, selon une grille personnelle. Mais le carnet, à l'envers sur ses genoux, ne paraissait pas avoir servi. Le film suivant débuta. Il s'agissait d'un pianiste omnubilé par son instrument, courant après le succès, frappant à toutes les portes pour qu'on lui organise des concerts. Il jouait toute la journée, torturé par sa recherche de la perfection. On le suivait dans des tournées, saluant le public, l'air sombre et insatisfait. Sa réputation, cependant, grandissait. On parlait de lui dans les journaux. Il était interviewé dans les médias, et toujours cette même double obsession, l'absolu et la gloire. Il se produisait dans des salles de plus en plus grandes, puis venait à Paris, pianiste parmi les pianistes, se heurtant à la cruelle critique parisienne. Il continuait à se courber maladroitement devant l'assistance à la fin de ses récitals, froid comme un bloc de banquise. Enfin, on lui organisait un concert salle Pleyel. Il montait sur scène, comme sous hypnose, et jouait comme peut-être seul Liszt ou Chopin avait pu jouer autrefois. Quand il saluait, son sourire étrange rappelait celui des statues de Bouddha. Le public montait sur scène et le portait en triomphe. Il continuait à sourire de façon énigmatique, comme indifférent à ce qui lui arrivait. Êtes-vous satisfait de votre prestation? Pensez-vous être arrivé au sommet de votre carrière? Lui demandait stupidement un journaliste. Je ne sais pas, répondait-il. Ce n'est pas moi qui ai joué. Laurent Amati se mordit la lèvre. Il fallait qu'il sache s'il était éveillé ou non. Contrairement aux autres courts-métrages, celui-ci ne correspondait pas à quelque chose qu'il avait vécu. Mais c'était pire. L'histoire de ce petit film pouvait aussi bien être quelque chose qu'il allait vivre. Et cette fois, il avait peur. Seul le diable, ou Dieu à la rigueur, pouvait lire aussi loin dans son âme. Pour qui se prenaient donc ces cinéastes? Il avait suivi des cours au conservatoire dans sa jeunesse, obtenu des prix, et hésité à se lancer dans une carrière de soliste. À la suite d'une mauvaise histoire de cœur, il avait renoncé, passé un concours de fonctionnaire, et travaillait maintenant à la préfecture. Mais depuis 2 ans environ, il s'était remis à son instrument et espérait, sans trop se l'avouer, reprendre une vie de concertiste. Il ne voyait maintenant qu'une personne susceptible de le connaître aussi bien. Mais il ne l'avait pas vu depuis plus de 15 ans, depuis ses études musicales, justement. Il ne savait pas ce qu'elle était devenue. À l'époque, il l'avait aimée, avait hésité, était parti avec une autre. Il avait ensuite sombré dans une longue dépression. Alors, le court-métrage suivant commença sous les yeux d'un Laurent Amati de plus en plus désorienté. Il fixait l'écran comme happé par ce carré de toile qui pouvait évoquer son passé ou dicter son avenir. Une cartomancienne qu'il avait un jour consultée lui revint en mémoire. Ce drap blanc tendu sur un mur possédait les mêmes pouvoirs étranges. Un renard galopait à perdre haleine dans une plaine. Il était poursuivi par une meute de chiens à demi enragés. Au loin, des cavaliers faisaient trembler le sol sous les sabots de leurs montures. Le plan restait fixe jusqu'à ce qu'on puisse discerner leurs visages. Des hommes et des femmes très dignes, faisant manifestement partie de l'aristocratie anglaise. Le renard tentait des zigzags pour échapper au molosse. Il parvenait bientôt au bord d'une rivière. Acculé, il avançait tel un équilibriste jusqu'à l'extrémité d'un arbre mort qui barrait un bon tiers du cours d'eau. Arrivé aux dernières branches, il sautait dans le courant et nageait en diagonale jusqu'à l'autre rive. Les chiens étaient plus gros que lui et ne pouvaient s'aventurer aussi loin sur le tronc. Ils aboyaient à faire peur. Quelques-uns plongeaient à leur tour, mais le courant, à cet endroit très puissant, les emportait. Et, hurlant, ils ne reprenaient péniblement pied que loin en aval, sur la même rive. Les piqueurs les rejoignaient ainsi que le gros de l'équipage. Ils contemplaient la berge opposée, sur laquelle on apercevait au loin le renard insolent qui trottinait. « My fair lady, I'm going to catch this damned fox », confiait un beau cavalier à sa dame. Et, poussant son alezan, il bondissait au milieu des flots. Le cavalier éperonnait son cheval qui finissait par reprendre pied dans une zone moins profonde. Regagnant prestement la rive opposée, il partait au triple galop à la poursuite du renard. La chasse durait ainsi quelques minutes à travers la lande. Le renard se fatiguait. Il croyait trouver refuge dans une cour de ferme et était bientôt refoulé dans un angle par le cavalier solitaire. Il soufflait comme une forge, à bout de force, proche de la mort. L'homme mettaient pied à terre et s'approchaient du goupil aux babines couvertes d'écume. Leurs regards se croisaient. La lueur de désespoir qui tremblotait dans celui de la bête émouvait son poursuivant. Changeant brusquement d'attitude, le gentleman mettait un genou en terre et bafouillait en anglais quelques mots empreints de compassion. Il revenait ensuite rejoindre sa belle pour lui affirmer que le gibier lui avait échappé. Laurent Amati fut intrigué. Il n'avait jamais vécu de chasse à cour, ni en France, ni en Angleterre. Le film lui avait plu, et il se demandait s'il n'allait pas voter pour lui. Soudain, il se dit qu'il avait peut-être exagéré les rapports entre les autres courts-métrages et sa propre vie. Ne peut-on glaner dans tous les films des éléments de son existence ? Une digestion difficile l'avait fait plonger dans des recoins obscurs de sa personnalité et l'avait peut-être rendu trop sensible à ses correspondances. « Plus qu'un !» entendit-il derrière lui. « Plus qu'un !» pensa Laurent Amati. « Mais alors j'en ai manqué deux. Je me suis donc réellement endormi. » Il en fut troublé, dès lors incapable de trier les courts-métrages auxquels il avait réellement assisté de ceux qu'il avait simplement rêvé. Il s'enfonça les ongles dans la paume de la main pour être certain de conserver les yeux ouverts. Le goût du mouton Rothschild de 1987 qu'ils avaient bu à table lui envahit la bouche à nouveau. Décidément, quel repas! Les premières images l'emmenèrent au Canada, dans une de ces forêts primitives où les arbres germent sur des troncs morts couverts de mousse et où l'atmosphère est sombre, comme dans un film d'épouvante, où les arbres géants étendent leur frondaison à la hauteur de nos cathédrales. Un promeneur solitaire marchait dans cette forêt. On comprenait que c'était un photographe, qu'il devait travailler pour un journal et que ses motivations étaient autant écologiques qu'économiques. Les images n'en demeurait pas moins grandiose. La forêt cédant la place aux névés en altitude et se jetant plus bas dans le Pacifique, découpée en un labyrinthe de bras de mer. Et puis, un grognement jaillissait d'un vallon. Un énorme grizzly montrait son nez et avançait vers le photographe. Celui-ci, dans un premier temps, mitraillait l'animal, usant une pellicule en quelques instants, imaginant faire la photo de sa vie. Puis, craignant de faire la photo de sa mort, il rangeait prestement son appareil et commençait à s'inquiéter de l'approche menaçante de la bête. « Ursus horribilis », marmonnait-il pour lui-même. Le grizzly marchait droit sur lui. Le photographe levait les bras au ciel. Cela peut faire fuir les ours qui croient ainsi apercevoir un animal géant, avait-il lu. Mais le grizzly en question était colossal et de taille à lutter contre un photographe, même bras levé. La bête sauvage n'était plus qu'à quelques pas. Paralysé par la peur, l'homme cherchait encore la force de résister. L'ours avait levé ses griffes sur sa proie quand l'homme, trouvant enfin un point d'appui intérieur, murmurait « Lui, c'est moi ». Le monstre reposait alors sa patte et, frôlant le photographe, poursuivait son chemin indifférent. Laurent Amati trembla de tous ses membres. Il venait de saisir quelque chose d'essentiel. Comme si lui aussi avait retrouvé son élan vital, s'était relié à nouveau à l'énergie de base qui le faisait vivre, il aurait tellement aimé rencontrer le réalisateur de ce film et le prendre dans ses bras. Désormais, il déciderait lui-même de sa vie. Il allait reprendre son instrument et rechercher la fille qu'il avait aimée autrefois. La salle s'éclaira. « Alors, que pensez-vous de notre sélection ?» lui demanda le directeur de la salle d'un air entendu. « Étrange. Certains films m'ont rappelé ma propre existence, essaya-t-il. Mais peut-être connaissez-vous Isabelle Lamourier ?» Laurent Amati crut s'évanouir. Elle était là, devant lui, en chair et en os. Il comprenait tout maintenant. Comme lui, elle avait cherché à le retrouver, avait comploté cette séance de cinéma pour lui prouver son amour et lui faire comprendre qu'elle lui pardonnait tout. Il voulut la serrer contre elle. C'est alors qu'il s'éveilla.